20h01 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Aujourd'hui, émission spéciale football américain avec nos invités des Yankees d'Angers. Je vais les présenter juste après. Avant ça, je vais introduire ceux qui m'accompagnent également à l'animation de cette émission. C'est Faustin et Cédric. Je vais commencer par Faustin. Salut Faustin.
Salut Alex.
Encore une victoire ce week-end.
Deux victoires en une.
Carrément.
Ouais, deux matchs joués.
D'accord. Ouais. Un petit tournoi, c'est ça?
Non, un match joué avec mon équipe et un en surclassement avec lui.
On ne l'arrête plus. Chaque semaine, on ne l'arrête plus. Cédric est également avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, en pleine préparation marathon.
Bien sûr, j'allais t'en parler.
Comme toutes nos athlètes, ça se prépare à l'avance.
Bien sûr.
Non, on est
un rythme de vie.
On est à quoi? À 4 heures du lancement officiel.
Donc c'est ça. C'est dès ce soir. Tu commences ce soir, toi?
Ouais, je commence ce soir. Je suis un fou. Comme ça, plus tôt on ouvre, plus tôt on peut recueillir des dons.
Donc on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc c'est pour un marathon caritatif sur Twitch.
Sur Twitch pendant jusqu'à dimanche. Dimanche au moins jusqu'à minuit. Pour recueillir des dons pour l'association Akita Home dans le but cette fois-ci donc d'avoir des fonds pour agrandir le refuge.
D'accord, bah en tout cas voilà, c'est une noble cause et surtout pour ceux qui veulent donner, bah rendez-vous peut-être sur ta chaîne Twitch.
Oui, voilà, ils sont sur ma chaîne Twitch, il y aura un lien puis dès ce soir il y aura le lien vers la cagnotte sur notre page, sur nos différents réseaux.
Ça marche. Alors, donc on l'a dit, c'est une émission spéciale football américain, puisque bientôt c'est le Super Bowl. C'est vrai que c'est quand le Super Bowl?
C'est dimanche.
C'est dimanche.
ça va être folklore. Je finis, j'enchaîne.
C'est ça, oui.
Je change de casquette.
Dans la foulée. Et donc, voilà, pour l'occasion, on reçoit les Yankees d'Angers qui vont pas seulement nous parler de Super Bowl, mais aussi évidemment de l'actualité autour du club et des différentes disciplines. On reçoit donc Elisa qui est avec nous. Salut Elisa.
Salut.
Et je suis vraiment désolé, j'ai oublié ton prénom.
Il n'y a pas de souci, c'est Pierre.
Pierre qui est avec nous, désolé pour ça. Donc, salut à toi Pierre.
Salut.
On passera à l'interview donc en deuxième partie d'émission. Avant ça, on va parler des actus locales avec Faustin. Faustin qui nous parlera de basket, évidemment, avec l'UFAB qui a réalisé une grande performance en se qualifiant pour les quarts de finale de l'Eurocoupe.
Oh, comment t'as spoilé?
J'ai spoilé, mais voilà, on les a reçus la semaine dernière. On ne savait pas si elles allaient passer et elles sont passées. Et donc, Faustin nous débriefera tout ça. Je propose de commencer sans plus tarder avec donc le sport local. Je vais commencer par le foot. Mercredi dernier, le SCO d'Angers a fait parler de lui d'une triste manière puisque les Angevins ont battu le malheureux record de nombre de défaites consécutives en championnat avec une série de 13 revers de suite. Alors qu'ils étaient bien partis pour la stopper grâce au but rapide de Sima, les hommes de Bouazama sont retombés dans leur travers dans la dernière demi-heure de jeu en concédant deux buts coup sur coup de Soumano et de El Idrissi. Dimanche, face à Lorient, équipe de haut tableau, les Angevins avaient l'occasion de mettre un terme à cette terrible disette de points. Dans la partie, ce sont d'ailleurs eux qui se sont montrés les plus entreprenants, sans trouver la faille malheureusement, mais en ne concédant pas de but non plus. Les recrues Nian et Goulam ont apporté de la fraîcheur au SCO et les Noirs et Blancs ont réussi à repartir de Bretagne avec le point du nul 0-0. Après la rencontre, les joueurs se sont réunis autour de leur président et de leur coach pour se féliciter plus ou moins de cette fin de spirale négative et surtout se remotiver pour la semaine peut-être décisive qui les attend. peut-être décisive car elle pourrait relancer leur saison bien morose jusque-là avec un quart de finale de coupe à aller chercher à domicile contre Nantes et un match déterminant pour retrouver de l'espoir dimanche face à Auxerre, 19e de Ligue 1. Donc voilà, cette affiche demain contre Nantes en Coupe de France, 8e de finale à Raymond Coppa, 19h15. Messieurs, peut-être un petit promo.
Pas hypé du tout.
pas hypé, d'accord, mais un prono.
Franchement.
Non, pas optimiste du coup.
C'est Nantes. Hein,
ça peut bien jouer.
Ça fait un moment qu'on a du mal à les gagner à domicile. Donc, soit on fait match nul généralement contre eux, soit on perd. Là, on sait que dans tous les cas, même un match nul, derrière, c'est une vraie prolongation et péno. Enfin,
non, pas de prolongation du coup.
Ah, il n'y a plus. C'est vrai que oui, c'est qu'en finale parce que.
Ça pourrait nous être.
C'est parce que c'est vrai, faut les ménager, on change les règles. Mais un match nul, peut-être envisageable au vu des performances de ce week-end et encore. Moi, je pense, cette Coupe de France, c'est bien, ça fait rentrer de l'argent en termes de parcours, mais bon, on aurait dû la jouer différemment avec plus de jeunes, histoire de peut-être préparer aussi la saison prochaine parce que voilà. C'est bien. On perd plus. Mais on gagne pas. On fait des nuls. Alors après, bon, il y a des clubs qui sont au-dessus de nous, mais c'est peut-être pire en termes de crise. Hein, Montpellier, qui a annoncé le limogeage de son deuxième entraîneur en l'espace de. Enfin, qui est arrivé il y a 4 mois. Donc,
Romain Pitot.
Voilà, on n'est pas encore en termes de crise à ce niveau-là, en termes d'entraîneur, mais bon, on n'est pas non plus sorti. Du ventre mou pour les relégations.
Enfin, c'est même pas ventre mou, là, c'est du, du fond du classement. Quoi.
Quand tu regardes les écarts, si, c'est. Fin...
Oui, ça va.
C'est quand même assez resserré.
Moi,
mais...
je trouve qu'on a de la chance justement d'avoir des équipes au-dessus de nous qui gagnent pas trop de points.
Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à gagner contre ces équipes-là. Donc, c'est ça.
C'est les rencontres directes. Faustin ?
Moi, je vais quand même essayer d'être optimiste un minimum. Hein.
Ça, c'est la jeunesse.
Ouais, c'est. Bon, je vais viser le plus petit score, un petit 1-0, ça ferait plaisir.
Ouais.
À la maison, marquer un but à la maison pour gagner, ce serait cool. Peut-être par les recrues, en plus, ça mènerait vraiment un nouveau truc qui ferait du bien, je pense, à l'équipe.
Ouais, c'est vrai que Nian a fait un plutôt bon match, donc pourquoi pas son premier but pour lui. On va enchaîner tout de suite. Faustin, le basket, sans plus tarder.
Ouais.
On commence justement par ce que je disais, la belle perf de l'UFAB.
Ouais, comme tu le disais la semaine dernière, du coup, on avait reçu Ivana Yakubkova. Et je pense qu'on lui a sûrement porté chance à elle et à toutes les Angevines qui se sont donc imposées 89-83, notamment grâce à un énorme troisième carton de la part des Angevines qui ont mis 30 points en ce troisième carton et en ont encaissé que 16. Les 21 points et les 9 passes décisives de Alexis Peterson ont aussi largement contribué à la qualification en quart de finale de recoupe où les Angevines, on connaît déjà leurs adversaires, ce sera l'ASVEL. Le premier match a lieu dès jeudi 23 février à Lyon. Elles le recevront ensuite le 1er mars à Jambouin.
D'accord. Voilà. Petite info. Il y a Max, vous le savez, qui est à Mont-de-Marsan. Et qui, Mont-de-Marsan, c'est la ville de Basketland. Et donc voilà, il était au match notamment de Basketland. Et il m'a dit, franchement, c'est pas mal. Et peut-être qu'il nous... Il nous fera pas un sujet, mais peut-être qu'on l'aura au téléphone pour qu'il nous parle d'un futur match entre Basketland.
Ça y est, le trait, il va voir les autres équipes maintenant.
Bah oui, c'est ça. Il va avoir des concurrents, mais bon. Déjà, il va avoir les concurrents en radio, et puis maintenant, il va avoir des concurrents en basket. Bref, c'est comme ça, mais on lui passe le coucou s'il nous écoute. En tout cas, voilà. Petite info.
Le tirage, je pense, qu'elles espéraient.
Ouais, franchement, c'est assez coriace. Tout comme en Coupe de France, parce qu'elles sont toujours en Coupe de France. Et justement, elles vont jouer Basketland. Ouais. Donc, elles jouent des grosses équipes sur ces matchs.
On aurait préféré que les deux clubs français se rencontrent plus tard.
Ouais, c'est ça. Et puis, je crois qu'en LFB, elles ont un gros
calendrier.
Un gros calendrier. Je crois qu'elles vont jouer Bourges, des équipes comme ça. Ouais. Donc, ça va être assez compliqué. Mais on y croit.
C'est pour ça que là, la trêve internationale va faire du bien aussi. Pour
ouais, bien sûr. D'ailleurs, juste avant, petite info, il y a aussi une info qui est plutôt cool. C'est Alexis Peterson, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a été draftée, enfin pas draftée, enfin elle a intégré à un camp de recrutement pour la saison de WNBA et donc pour les pour l'équipe de Las Vegas. Donc voilà, c'est un camp où elle va partir à peu près en mai pour voir si elle va être sélectionnée pour cette équipe de Las Vegas et donc pour jouer peut-être là en WNBA, ce qui serait énorme hein, pour la joueuse.
Ce serait super, c'est clair.
Quand son parcours, oui.
Ouais, ce serait
pour nous, ce serait peut-être un peu triste.
Ce serait un coup dur. Après, elle peut revenir. Il y a des joueuses qui ont.
Oui, après, ça. Mais comme souvent, ça chevauche les saisons.
Après, peut-être qu'elle reviendrait un peu plus empruntée, peut-être.
Sûrement.
Donc, Faustin, on enchaîne avec le AB.
On continue sur l'UFAB, parce que c'est pas le seul match qu'elles ont joué cette semaine. Elles ont aussi joué en championnat. Elles sont déplacées à Montpellier. Et elles ont subi malheureusement une lourde défaite, 80 à 52. Voilà, donc comme on le disait, il y a maintenant une petite trêve internationale. Et leur prochain match, ce sera pour les quarts de finale de Coupe de France, donc face à Basketland, le 16 février. Voilà, maintenant je parlais de l'EAB, qui sont d'abord imposés. C'était la semaine dernière, tout pile, contre Boulazac, 105 à 87, ce qui est très encourageant en vue de la finale de la Leaders' Cup, qui aura lieu le 19 février. Rappelant qu'une victoire en finale de Leaders' Cup les qualifierait directement pour les playoffs.
Ce serait une très bonne nouvelle.
Ce serait excellent pour cette première saison en Pro B.
Bien sûr.
Pour les Angevins. Ils sont ensuite déplacés à Chalon, pour affronter donc les premiers du championnat et se sont malheureusement inclinés 82 à 76. Prochain rendez-vous vendredi face à Saint-Chamond.
Et puis on termine avec Cholet Basket.
Cholet, semaine mitigée pour les Choletais qui ont pourtant bien commencé en s'assurant la qualification en quart de finale de Coupe d'Europe, pardon, en s'imposant 71 à 64 à Craiova en terre croate. Il reste cependant toujours un match à jouer en phase de poule. Ce sera demain face à Porto à la Meilleraie. Le gagnant finira premier du groupe et jouera donc le deuxième du groupe G, il me semble, pour les quarts de finale. Ils ont ensuite reçu Le Mans en championnat et se sont inclinés 83 à 103. C'est la deuxième défaite d'affilée des Choletais en championnat. Alors pas de quoi s'affoler pour le moment car ils restent tout de même troisième du championnat. Mais il faudrait assez vite changer cette dynamique pour éviter de se faire peur dans la fin du championnat.
Très bien, merci à toi pour ce petit point basket local. On va enchaîner sans plus tarder avec le handball. Alors que leurs homologues du foot peinent à retrouver le chemin de la victoire, les joueurs du SCO Handball continuent sur leur lancée de champion en National 1. Samedi soir, les Angevins ont maîtrisé les Auvergnats de Cournon, 29-25, pour décrocher leur 13e succès de la saison en 15 matchs. À ce rythme-là, les scoïstes pourraient bien entériner leur remontée en Pro League dès le mois d'avril prochain. Mieux vaut ne pas s'enflammer non plus, mais en tout cas, les handballeurs angevins ont 5 points d'avance sur leur dauphin Annecy, équipe coachée par leur ancien entraîneur Guillaume Dupin. Si vous voulez voir une équipe du SCO gagner, vous pouvez aller à la salle du Hara pour leur prochain match de championnat. Contre Sainte, quatrième justement en championnat. Ce sera vendredi à 21h. On va enchaîner avec le hockey. Après le calendrier dantesque du début d'année 2023, les Ducs d'Angers vont souffler un peu dans la semaine à venir grâce à la trêve internationale. La semaine dernière, les hockeyeurs angevins en ont profité pour faire le plein de points avec 2 succès en quelques jours. Le premier mardi soir a permis de trouver de la continuité avec la victoire facile 4-1 contre les Pionniers de Chamonix. 3 jours plus tard, un autre match fut une nouvelle fois maîtrisé par les Ducs avec un succès 5-1 contre les Scorpions de Mulhouse. La qualif pour les playoffs déjà entérinée, les hommes de Jason O'Leary peuvent désormais aborder une nouvelle phase de leur saison. Et puis à noter que le club a annoncé la tenue d'un match des légendes à l'occasion des 40 ans de l'ASGA, en tout cas des Ducs d'Angers, en amont du match du 19 février contre Mulhouse à l'Ice Park. Donc voilà pour les actus locales. On va enchaîner tout de suite avec les actus internationales, à commencer par le football. La 22e journée de Ligue 1 a vu trois équipes du top 5 marquer un coup d'arrêt ce week-end en championnat. Rennes a chuté à domicile 3-1 contre une belle équipe de Lille. Lens a fait match nul 1 partout à Brest dans un match marqué par de nombreuses erreurs arbitrales. Enfin, Marseille a été battu par une vaillante formation de Nice 3-1. Le PSG a quant à lui fait le job contre Toulouse 2-1 avec après une ouverture du score toulousaine. Monaco revient fort sur le podium avec son nouveau succès à Clermont 2-0. Nantes s'est débarrassé d'Ajaccio 2-0. Lyon s'est relancé en battant 3-1. Auxerre et Reims ont fait match nul 0-0. Et Montpellier continue sur sa mauvaise lancée, tant par la Cédric avec le départ de Romain Pitot, en s'inclinant à Strasbourg 2-0, alors qu'ils étaient à 11-10 pendant une grande partie du match. À noter que, comme on l'a dit plus tôt, il y a une journée la semaine dernière. On ne va pas revenir sur tous les résultats, mais on va juste dire que Kylian Mbappé s'est blessé contre Montpellier, que le champion du monde français est forfait pour le match aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich la semaine prochaine. On va passer maintenant à l'équipe de France de rugby qui a entamé son tournoi des Six Nations 2023 par un match plus compliqué que prévu contre l'Italie. Malgré un bon démarrage, les Italiens sont bien revenus en fin de première mi-temps pour rester au contact des Français. Les Bleus ont ensuite bien cru qu'ils allaient mettre un terme à leur série de 13 victoires consécutives puisque les Transalpins ont mené à un quart d'heure de la fin, 24-22. Mais c'était avant l'essai de Jalibert et la transformation de Ramos. La France s'impose de justesse 24-29 et poursuit sa série d'invincibilité de 14 succès, ce qui est évidemment bienvenu dans ce tournoi destination qui sert de grande répétition avant le Mondial 2023 organisé en France. On va passer maintenant au
bas. On a pris le point offensif du coup.
Comment? Le bonus offensif.
Le bonus offensif.
Je n'ai pas l'info. Je ne sais pas.
Je sais plus du coup. Mais...
En tout cas, ça démarre bien pour les
Bleus. Ça démarre bien et pas bien à la fois. Il y en a d'autres aussi qu'on vient de démarrer. Hein. Donc, on sait que déjà l'Angleterre, bah, c'est mort pour eux pour faire le grand chelem.
Ouais. Défait par l'Écosse.
Mais voilà, défait par l'Écosse. L'Écosse, généralement, quand ils partent bien, c'est des clients.
Et l'Irlande qui est un des favoris aussi.
Ouais, mais je pense que l'Écosse, du coup, une belle entrée en jeu là, comme ça face à l'Angleterre, ça va bien les booster. Donc, je pense que le match contre la France il va être décisif pour le futur vainqueur.
On va enchaîner maintenant avec le basket. Faustin, tu veux nous parler de Betclic Elite, de Euroleague et de NBA.
Exactement.
C'est bien ça, dans l'ordre.
C'est tout à fait ça, dans l'ordre. Exactement. Donc, je vais du coup démarrer par la Betclic Elite. Et on a eu le droit à un très beau match à Blois, car il recevait les Mets 92. Et mis à part le nouveau spectacle qu'a proposé Victor Wembanyama, c'est la dernière action du match qui a fait le tour de la planète cette fois-ci. Car alors qu'il ne reste que 17 secondes à jouer dans ce match, Blois perd de 2 points. Ils ont cependant la remise en jeu. Tyron Johnson, l'ailier fort blésois, s'empare du ballon. Il fait seulement un dribble, fait tomber Victor Wembanyama, c'est 2m24 qui s'écroule au sol, et enchaîne sur un 3 points, donnant un point d'avance à son équipe, qui suffira à gagner le match de un petit point, donc 78-77 pour Blois. À part ça, l'ASVEL a fait tomber Dijon, ce qui a permis à Cholet de conserver sa troisième place ex aequo. Et Monaco a ensuite enchaîné sur une nouvelle victoire, cette fois face à Paris, leur donnant 3 victoires d'avance sur le deuxième, qui est donc les Mets 92. Voilà, c'est tout pour la Betclic Elite. Je vais maintenant passer à l'Euroleague. Et c'est malheureusement 2 nouvelles défaites pour nos équipes françaises. La première, c'est Monaco qui s'incline face à Madrid sur le score de 91 à 95. La deuxième, c'est celle de l'ASVEL qui tombe face à Bologne. Cependant, il y a tout de même eu du bon durant cette soirée, car Nando De Colo, formé à Cholet, est devenu le scoreur le plus prolifique des Coupes d'Europe, battant ainsi le grec Nick Galis, qui avait inscrit en tout 4904 points dans sa carrière. Il reste cependant troisième au classement des scoreurs d'Euroleague.
D'accord.
Voilà, je vais maintenant passer à la NBA, où on a eu le droit à un énorme transfert cette semaine, car dans un premier temps, Kyrie Irving avait demandé jeudi dernier de son transfert pour partir des Brooklyn Nets en NBA. Le club en charge du joueur, donc ici en l'occurrence les Nets, doivent trouver un club en fonction des offres qu'ils vont recevoir, et le joueur n'a pas son mot à dire sur la destination où il ira. Ici, donc, plusieurs équipes se sont positionnées très tôt, dont les Phoenix Suns et les Dallas Mavericks, les Los Angeles Clippers ainsi que les Lakers. L'opinion publique voulait clairement le voir aller aux Lakers pour retrouver le duo avec LeBron James, qui avait notamment gagné le titre en 2016. Mais les plus rapides ont été les Mavs de Dallas. Kyrie est donc envoyé à Dallas en échange de Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et trois choix de draft des Mavs pour 2029. Il rejoindra donc Luka Doncic pour un duo qui va devoir faire ses preuves. Alors personnellement, je pense que ça va pas tellement fonctionner.
Tu sens pas d'alchimie entre les
deux?
Non,
bah c'est deux joueurs qui adorent avoir la balle en main, surtout Luka Doncic qui a du mal à lâcher sa balle. C'est pour l'instant clairement c'est le joueur qui prend le plus de shoots pendant les matchs. Donc bon, après c'est pour ça qu'il met beaucoup de points notamment, parce qu'il a pas un super pourcentage non plus. Donc voilà, faut lâcher les balles, ça va être compliqué, surtout avec le gros ego de Kyrie Irving qui fait un peu des misères partout où il passe.
Ouais, c'est ça, depuis Cleveland, c'est compliqué.
Ouais, c'est clair, il insulte ses coéquipiers, il se fait détester par les fans.
Ouais, ouais. Il avait fait Boston avant.
Ouais, ça, Boston.
Les Nets, et maintenant...
Maintenant Dallas.
Maintenant Dallas.
En plus, il est agent libre à la fin de la saison, donc cet été. Donc si ça se passe pas bien, il aura à mon avis aucun scrupule à s'en aller et à laisser l'équipe en plan.
Ouais.
Parce qu'il sera pas attaché finalement.
Ok.
Voilà.
Eh bien merci pour ce petit point basket, Faustin. On va terminer par deux infos. La première qui va concerner le ski alpin. Hier ont débuté les championnats du monde de ski alpin justement, organisés en France à Courchevel-Méribel. Et aujourd'hui un Français a brillé à domicile en devenant champion du monde du combiné, puisque l'incontournable Alexis Pinturo s'est emparé de son deuxième titre mondial après un excellent super G hier et un très bon slalom aujourd'hui. Voilà pour le ski. On va terminer avec le judo. Ça va faire plaisir à Yann qui nous écoute sûrement. Ce week-end, c'était le Grand Chelem de Paris, organisé à Bercy, un événement qui voyait Teddy Riner revenir en compétition après une longue absence de plusieurs mois sur les tatamis. Le double champion olympique en a profité pour retrouver le chemin de la victoire, puisqu'il a remporté son tournoi dans la catégorie des plus de 100 kilos. Riner s'est défait en finale du japonais Ota et montre qu'il faudra compter sur lui sur les prochaines compétitions internationales, notamment sur les Jeux de Paris 2024. Dans ce Grand Slam Paris, d'autres tricolores ont remporté une médaille d'or, comme les trois judokates Blandine Pont, Priscilla Nieto et Audrey Chemeo. Cédric, je parlais avec Yann avant l'émission, je l'ai croisé dans les couloirs et il me parlait justement d'une victoire qui n'était pas forcément avec la manière, qui n'était pas forcément très belle, pas une belle victoire de judo de la part de Teddy Riner. Est-ce que c'est ton sentiment un peu aussi? Je ne sais pas si tu as vu les quelques images.
Non, j'ai rien vu, parce que bon, ça reste un peu confidentiel, la diffusion. Moi, le seul moyen que j'ai su qu'il y avait ça, c'était parce que sur Twitch, ça a été diffusé. Mais non, d'après ce qu'il disait, c'était pas folichon, je suis tellement pas étonné. Enfin, tu regardes ses bilans, récemment, c'est des blessures. C'est certaines compétitions importantes où il fait l'impasse. C'est des entraînements, mais bon, on ne sait pas trop dans quel but. Il y a beaucoup de com, je trouve, autour de lui. En fait, ça fait venir les sponsors. Enfin, ça fait
documentaire.
Ça fait parler, ça fait rentrer de l'argent, forcément. Donc, ouais, ok, c'est bien. Il s'impose dans l'ancien tournoi de Paris. Je ne sais plus comment il l'appelle maintenant.
Le Grand Chelem.
Le Grand Chelem, voilà. Grand Chelem Paris. Mais après, il va pas forcément faire les autres.
Ouais.
Donc au final, c'est censé être un circuit. Donc
ouais.
Non, ouais, il y a quasiment rien à dire quoi sur lui maintenant. C'est juste, bah, ça passe, tant mieux pour lui.
Ouais.
2024, on est proche et loin.
Ouais.
Je pense que ça va peut-être bouillir dans les têtes de certains pour aller le déboulonner.
Bien sûr.
Et on va voir comment la Fédé va aussi procéder pour cette qualification. Des places, ouais. Voilà, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est ce que disait Yann. C'est vrai que Yann se plaignait un petit peu justement du fait que les autres n'avaient pas forcément leur chance dans ces catégories-là où il y a Teddy Riner et on doit mettre Teddy Riner en avant.
Surtout, si on l'enlève, on retombe dans nos travers au niveau des garçons. Hein,
c'est vrai que c'est assez
un
pauvre,
petit peu
derrière.
Le désert en termes de résultats.
Ouais.
Autant les filles, voilà, il y a quand même le niveau qui tient, quoi.
Ouais. Il est déjà 20h26, donc on va passer tout de suite à la pause musicale, puis après on sera de retour pour parler du club des Yankees d'Angers et de football américain. On va donc s'écouter tout de suite Shallow, interprété par Lady Gaga, et on va revenir juste après.
Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself. Sometimes I fear myself.
De retour sur Radio G, nous sommes toujours sur Génération Sport. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr sur Internet. Il est 20h30, on va passer à l'interview de l'émission qui va être faite par Cédric. On reçoit donc Pierre et Elisa pour nous parler des Yankees d'Angers. Donc Pierre, toi tu es dans l'équipe de football américain, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et donc Elisa, tu veux nous parler des cheerleading ?
Des cheerleading, oui, c'est ça.
Écoute, c'est vrai que je te propose de commencer.
Oui, bah, avant de parler un peu de tout ça, on va vous laisser la parole, un peu vous présenter, expliquer un petit peu votre parcours au sein du club, depuis combien de temps vous y êtes, et pourquoi vous avez choisi cette discipline.
Est-ce que tu voudrais commencer?
Ok. Du coup, moi, c'est Elisa. Je fais du tir depuis à peu près 4 ans. J'ai rejoint l'équipe au moment où ça commençait à devenir vraiment du tir. Cette année, je fais partie de l'équipe compétition et je suis coach de l'équipe loisirs animation à côté de ça depuis du coup le début de l'année parce que c'est une nouvelle section qui vient d'ouvrir du coup. Et voilà.
Du coup, je vais enchaîner. Moi, j'ai rejoint le club en 2011-2012, vers ces années-là. Donc, ça commence à faire un moment. Après, j'ai eu quelques années de coupure où je n'ai pas forcément joué au football américain. Donc, au total, on va dire que je cumule aux Yankees 8 années de pratique.
D'accord, oui, parce qu'il faut rappeler que les Yankees, c'est vrai que là, sont plus peut-être connus pour la partie, on va dire, football américain, mais ça regroupe à peu près 3 disciplines. Donc deux qui sont assez proches, on a le flag et le football américain.
C'est ça.
Et le cheerleading qui a pris un peu plus d'ampleur, j'ai l'impression, au fur et à mesure des années.
Oui, ça commence à se développer petit à petit là, mais ça commence à être pas mal et on espère se développer encore plus. Ouais.
Donc du coup, comme tu le disais, il y a eu une évolution en fait au milieu du cheerleading. Donc du coup, maintenant, il y a la partie loisir et la partie vraiment compétition qui ont été mis à part.
C'est ça. On a vraiment une section, deux sections mini, donc avec les tout-petits. On a une section junior, compétition aussi. Une section senior, compétition. Et une section loisirs senior aussi, pour permettre de vraiment avoir un temps d'entraînement à part des temps d'entraînement de compétition qui prennent beaucoup de temps, pour faire des animations pour d'autres équipes ou des événements sur Angers ou aux alentours.
Et ça s'est fait parce qu'il y avait une demande de plus en plus importante au niveau des gens qui venaient vous voir sur différents événements, le fait de faire vraiment que du loisir et pas que de la compétition.
Je pense que ça s'est fait surtout parce que la partie compétition s'est développée. L'année dernière, c'était notre première participation aux compétitions en France. Et donc, à côté de ça, on n'avait pas vraiment le temps de préparer des animations ou des prestations pour d'autres équipes à côté. Et c'est vrai qu'on a une demande de personnes qui rejoignent le club voulant faire des animations et pas forcément de la compétition. Et d'autres personnes qui sont à fond dans la compétition et qui ne sont pas forcément intéressées non plus par des animations à côté. Donc ça permet que chacun y retrouve son compte. Parce que les athlètes qui sont inscrits peuvent faire autant de l'animation que de la compétition.
La préparation va être la même au final, où il y a des petites spécificités pendant les entraînements
Il y a des spécificités. Je dirais que les entraînements de l'équipe compétition sont plus intenses sur le physique. Et en compétition, on obéit, on va dire, au règlement de la 3FA. Quand en loisir, c'est plus libre. Ça, on va dire que c'est moi qui décide de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et du coup, c'est un peu les différences qu'on retrouve, ouais.
Et du coup, il a fallu réaménager le planning d'entraînement.
Oui.
Donc maintenant, c'est quand les entraînements pour que les gens puissent venir voir, justement?
Alors, la découvrir. Team loisir, c'est le lundi soir de 20h30 à 22h30 à la salle du Hara. Et la team compétition, c'est le mercredi soir de 20h30 à 22h30 aussi. Et le vendredi soir de 20h à 22h30.
D'accord. Et donc du coup, tu disais l'année dernière, première participation en compétition officielle.
Oui.
Comment ça s'est passé? Ça a été quoi, ton ressenti et le ressenti général de l'équipe par rapport à ça?
C'était une ambiance assez folle parce qu'on était une petite équipe et c'était notre première compétition pour tout le monde. Du coup, on a pu faire les zones, donc à Nantes. On a été qualifié pour participer au final du championnat de France de cheerleading, donc on est allé jusqu'à Vichy et là on a pu encore plus se rendre compte de l'ampleur un peu que c'était, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'équipes, beaucoup de niveaux différents. Nous on était en niveau novice l'année dernière, ça allait jusqu'au niveau élite, donc niveau 6, de niveau 1 à 6 du coup, et ça a permis, je pense que ça a un peu donner l'envie aux athlètes qui étaient déjà là et même à ceux qui nous connaissaient d'à côté de vraiment d'aller encore plus loin, de chercher à progresser et à en faire un peu toujours plus, quoi.
D'accord. Et par rapport au ressenti général, pareil, sur la France entière, ça se développe autant ou...
Bah, je suis dedans, donc j'ai du mal à avoir un avis extérieur, mais j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur, oui, que ça commence un peu à faire son nom en France aussi.
Non, parce que c'est vrai, pour, on vous a reçu souvent, depuis 2-3 ans, pour parler justement du sharing-ding, et de l'aspect extérieur, c'est qu'on voyait quand même qu'il y avait une augmentation des adhérents.
Oui, ouais, ça c'est sûr.
C'est quelque part très bien pour un club, parce que ça permet aussi de, voilà, de le faire vivre. Mais quelque part, l'engouement qui arrive comme ça, c'est toujours un peu étonnant, parce que c'est moins répandu. Hormis quelques séries qui en parlent, voilà, où on peut en voir, il n'y a pas encore de diffusion de compétition en France. On sait qu'aux États-Unis, voilà, ça fait partie des sports, j'ai envie de dire, nationaux. C'est impressionnant qu'il y ait quand même une évolution comme ça, crescendo sur plusieurs années. Souvent, ça stagne ou ça redescend. Là, c'est que du positif, en tout cas, pour l'instant.
Oui, c'est ça. Et je pense que les participations de notre Team France au World, ils sont pour quelque chose aussi. On a une team l'équipe All Girl qui sont arrivées troisième au championnat du monde de cheerleading à Orlando. Donc je pense que ça permet petit à petit de faire connaître aussi le cheerleading en France.
Et là, la saison a commencé en termes de compétition ou...
Pas encore, mais bientôt. Notre première compétition là à Nantes, elle est le 19 mars. Et du coup, si on est qualifié pour les finales, on en aura une autre fin mai. Et dans tous les cas, on en a aussi une à part de la 3FA le 3 juin, l'Open Cheer du Centre.
D'accord. Et qui sera sur Angers ou...
Les zones donc, sont à Nantes et l'Open Cheer du Centre, c'est à Orléans.
D'accord. Un peu délocalisé, mais c'est toujours accessible quand même pour nos auditeurs qui voudraient découvrir.
Tout à fait.
Le niveau compétitif.
Et d'ailleurs, pour se préparer à la compétition, on aura un show-off le 5 mars. Ça permettra à l'équipe d'avoir un premier contact avec un public, de gérer notre stress, de voir comment ça se passe quand on doit faire de A à Z notre routine devant du monde et sans pouvoir recommencer du début si on se trompe. Et puis, du coup, ce sera ouvert au public, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais normalement, oui. Mais voilà, même si c'est pas quelque chose à ce moment-là qui sera parfait, ce sera un bon gros entraînement pour l'équipe.
Oui, ça, c'est toujours l'aspect. Je pense le plus dur à travailler, c'est le mental vis-à-vis d'un public.
Ouais, ça peut changer beaucoup de choses.
Avoir du public à l'entraînement, généralement, c'est des gens qu'on connaît.
On en a même pas. On a nos blessés qui viennent nous voir, mais sinon.
Et voilà, ça reste quand même un petit cercle, on va dire.
C'est ça, ouais.
Et c'est vrai que c'est la meilleure façon de l'appréhender, c'est de faire des petits tests comme ça, effectivement.
Mmh. Oui,
vous avez des questions avant qu'on passe sur l'autre partie.
Non, pas forcément sur le cheerleading. Juste, tu parlais de justement le développement de plusieurs, on va dire plusieurs équipes. Au niveau de l'effectif, ça a augmenté vraiment significativement ces dernières années. Ou ça reste à peu près la même chose. Vous avez peut-être
Pour les autres équipes, j'avoue que je ne sais pas trop, mais par exemple, rien que sur Angers, on a ouvert de nouvelles sections et tout, donc je pense que oui, ça évolue quand même. Ouais.
Ok. Faustin, peut-être une question ?
Ouais, moi je me demandais, on voit quand même très souvent, je sais pas, à la mi-temps des matchs, entre les cartons, tout ça, c'est essentiellement des femmes souvent qui font du challenging. Est-ce que vous avez une équipe masculine ou des hommes qui sont dans votre équipe ?
On est une équipe mixte, ouais, que ce soit en mini, junior ou senior, loisir ou compétition, on est mixte. Ouais.
Ouais, parce qu'il faut faire peut faire la distinction. En fait, ce que tu vois généralement dans les matchs, surtout en NBA, c'est plus le côté pom-pom girl qu'on a.
Ouais, c'est ça, ouais.
Okay. Et tandis que le cheerleading, ouais, c'est vraiment un peu plus mixte, puisque pour certains portés, t'as pas vraiment le choix. Faut avoir quand même des gars assez costauds pour pouvoir tenir pendant un certain temps.
Les filles le font très bien aussi.
Oui,
mais,
bien sûr.
Oui, la différence qu'on fait entre ce qu'on voit pendant les matchs, c'est surtout sur la partie danse. Il y a beaucoup plus de danse sur une animation de match qu'en compétition. En compétition, c'est vraiment soit en fin de routine, soit pour les transitions d'un groupe de portée à un autre. Voilà.
Non, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent vraiment voir à peu près comment ça se passe, moi je recommande la série qui est sur Netflix, c'est de mémoire, il me semble, Cheer.
Ouais,
c'est encore un niveau au-dessus, hein, c'est vraiment le niveau américain dans les universités. Voilà. Mais pour comprendre un peu pourquoi c'est un sport mixte, tout ça, je trouve que c'est une très bonne approche.
Ouais. Il y a cette série-là, puis il y a pas mal de vidéos des routines qui sont rediffusées sur YouTube.
Oui, oui.
Du coup, ouais, y a moyen de trouver des trucs sympathiques. Sinon, on sera samedi soir, on animera le match des gars des Yankees, là, et, histoire de faire une petite animation pour la team Cobalt, et puis d'être derrière eux pour les soutenir contre Nantes.
Ah, parce que ça fait la passerelle, mais...
Très belle transition,
ouais. Exactement.
Ça y est, là. On y est presque, là, c'est... Les derniers entraînements avant le jour J, là, c'est la saison qui va enfin débuter.
Elle a déjà débuté il y a deux semaines contre les Kangourous de Pessac. On a une défaite. Après, ça annonce de belles choses quand même. On a une belle marge de progression. Donc, ça va être intéressant cette saison. Là, contre les Dockers ce week-end, samedi soir, c'est une équipe qu'on n'a pas vue depuis longtemps en championnat de Détroit. Donc c'est la division du casque d'argent national français. Donc c'est une équipe qui, elle, évoluait en D2. Ils ont perdu des joueurs, ils en ont récupéré d'autres. Donc ça risque d'être très intéressant samedi soir.
Ouais, et puis ça, souvent, c'est des matchs, même par le passé, qui ont toujours été assez engagés, c'est avec le petit côté rivalité, derby de la région, tout ça.
Ça
fait des années.
Ouais.
Et c'est vrai que, bon, généralement, ils ont quand même des très bons joueurs. Une grande zone de formation là, dans ce club-là, c'est vrai que...
Après, oui, il y a aussi...
Ils travaillent très bien aussi, et on peut leur connaître là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait toujours des matchs sympas. Puis là, en plus, premier match à domicile, direct un derby, ça met le petit coup de fouet, je pense, supplémentaire pour aller chercher la première victoire.
C'est ça. Tout le monde est déjà surmotivé. Un entraînement plus calme, demain soir. Et puis on va se reposer pour samedi soir.
Et du coup, comment ça s'est passé justement l'année dernière, le championnat ?
Alors malheureusement, je n'ai pas pu participer au championnat l'année dernière. Après, j'ai quand même suivi parce que j'avais encore beaucoup de camarades dans l'équipe. C'était une saison qui s'est, on va dire, relativement bien déroulée dans l'ensemble. Il y a toujours énormément de joueurs nouveaux. Donc c'est chaque année, il faut recommencer à mettre des bases, à apprendre aux gens comment se déroule un match de football américain. C'est quelque chose qui est différent de beaucoup de sports où l'action va être en continu. Donc l'année dernière, ça s'est relativement bien déroulé. Il y a eu des victoires. Ça fait toujours du bien. Après, les défaites viennent avec. Et on essaie de pas trop juste d'en tirer des leçons et pas trop rester bloqué dessus.
J'avais juste une question justement, tu disais c'est intéressant par rapport au changement d'effectif et au fait de réapprendre, c'est pas un peu dur pour ceux qui sont déjà formés, est-ce que c'est enrichissant pour eux par rapport à ça?
De ce point de vue là ça va, en général ceux qui sont déjà formés vont souvent déjà partager leur expérience,
ouais.
Et on arrive toujours à progresser, on a quand même des coachs qui eux continuent de se former, continuent d'entretenir leurs connaissances et d'apprendre de d'autres choses. On organise parfois des camps où il y a des coachs extérieurs qui viennent. Donc, il y a toujours cette progression, cette marge d'aller vers le haut.
Ok.
Donc du coup, toujours un engouement pour le football américain. Angers, ça vient se taper à la porte régulièrement pour essayer d'intégrer l'équipe. À tout niveau, ou il y a des niveaux où c'est un peu plus compliqué de recruter?
En junior, l'effectif est un petit peu réduit. Après, eux, ils vont commencer ce week-end aussi à jouer à Nantes. Donc, pour les seniors, c'est Nantes qui vient. Pour les juniors, c'est les juniors qui vont à Nantes. Donc, il y a un championnat qui va être quand même intéressant de leur niveau. Il y a beaucoup d'équipes juniors qui sont des équipes d'entente. Donc c'est deux clubs par exemple qui se sont regroupés pour former une seule et même équipe. Et ils vont jouer aussi contre des équipes d'Île-de-France. Donc ça va rester quand même intéressant. Donc c'est quand même un niveau pré-national. Donc ils vont voir pas mal d'équipes différentes avec sûrement pas mal de niveaux aussi.
Oui, parce que historiquement, c'est vrai que le football américain est très bien en Île-de-France. Ça fait des années que les clubs sont là. Tu vois, de toute façon, ils sont généralement tous dans l'élite.
Ouais. Oui,
au plus haut niveau. C'est vrai qu'il y a quand même un très bon niveau de la part de ces clubs-là. Et c'est vrai que du coup, pour les jeunes, pour pouvoir se former, rencontrer des adversaires comme ça, même, je pense, pour les échanges en pré-saison, en stage ou des choses comme ça, ou des matchs de pré-saison, ça peut toujours être intéressant pour progresser.
Oui, c'est toujours sympa de rencontrer des équipes un petit peu différentes chaque année. C'est une bonne chose.
Et du coup, niveau entraînement, ça se passe où et quand ?
Alors, cette année, les entraînements, c'est le lundi soir et le mardi soir, de 20h à 22h. C'est au stade Marcel Nolo. C'est là que se déroulera aussi le match de samedi soir. Donc, c'est derrière l'école de Léséo, sur les Hauts-de-Saint-Aubin.
Du coup, on va parler un petit peu du flag.
Ouais.
Donc, pour rappeler nos auditeurs, est-ce que tu as déjà entendu parler du flag ?
Non, pas du tout. C'est vrai que tu as dit ce nom-là au début, j'avais posé la question. C'est quoi la différence entre le flag et le football américain ?
Je te pose pas la question.
Non, j'étais la dernière.
Alors, le flag, c'est, on va dire, la version, pour vraiment simplifier avant de expliquer dans les détails, c'est du football américain, mais t'enlèves les plaquages, t'enlèves certaines choses, j'ai plus tout en tête. Et en gros,
Le jeu a été simplifié pour réduire tout ce qui va être partie de contact et d'opposition de ligne. Et donc, il y a plus de jeux aériens. Très peu de courses quand même, mais plus de jeux aériens avec des jeux de passe, beaucoup. Et donc, ça va être, on va dire, plus agile et plus rapide sur le terrain. Et ce qui remplace les plaquages, c'est des sortes de rubans, ce qui s'appelle les flags. Des rubans qu'il faut décrocher. Et ça compte comme un plaquage lorsque le petit ruban est retiré des joueurs.
On va dire que c'est la version plus accessible.
Voilà.
Ouais. Et puis,
c'est ça.
Rien n'empêche en fait de faire la bascule entre les deux après. Voilà, c'est...
Ouais, est-ce que ça demande des capacités différentes physiques, par exemple, peut-être une agilité peut-être plus importante? Un style de jeu peut-être aussi à mettre en place.
Un style de jeu, c'est sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de schémas de passes à faire, donc courir dans certaines zones du terrain, tromper son adversaire, arriver à feinter en courant, c'est de mettre des changements de direction rapide, ça va être beaucoup de choses comme ça. Après, comme il n'y a pas cette partie contact, la passerelle qui peut se faire entre le flag et le football américain est possible. Après, faut se mettre dans l'idée qu'il y aura du contact en passant au football américain.
Ouais.
Mais c'est toujours une belle discipline, le flag à regarder, parce que c'est pas le même spectacle.
Toi, t'en as pas fait encore ?
J'en ai pas fait de. J'en ai fait en loisir, on va dire.
Ouais, t'as testé, quoi.
Voilà, c'est ça.
Mm. Ok. C'est vrai.
Pareil, au niveau compétition, s'est passé comment ?
Au niveau de la compétition, là, ils sont toujours en phase de recrutement pour participer à la phase régionale du championnat. Après, il y a eu un championnat de France il y a un an et quelques. Où ils ont fait des belles victoires. Après, là, c'est le flag, c'est toujours la phase de recrutement, il manquait un peu de monde. Il y a eu un peu d'engouement ces dernières années, mais là, on est un peu dans... Il faut recruter.
D'accord, ouais, c'est un petit peu la section un peu... c'est moins renforcé ou...
C'est moins renforcé, mais c'est peut-être aussi moins mis en avant.
Ouais.
On essaye au maximum d'en parler. Après, voilà, à côté, il y a quand même le football américain, donc on va dire que ça prend peut-être plus de place au niveau de l'image que l'on peut partager.
Ouais, puis naturellement, je pense que les gens sont plus intéressés par du football américain.
Peut-être aussi, ouais.
Je vois que le temps passe vite.
Passe vite, effectivement.
Ouais, on va parler du coup de l'actualité qui va arriver très vite. Donc, premier match à domicile ce samedi.
C'est ça, à 19h.
Oui. Et derrière, il y a forcément le rendez-vous incontournable un peu pour le club, hein, c'est le Super Bowl. donc qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Je crois que c'est minuit, en gros, les prises d'antenne sur les différentes chaînes. Oui. Pour peut-être début du match, peut-être à peu près une demi-heure après, voire une heure, je ne sais plus tout à fait les horaires.
Non, c'est minuit et demi.
Minuit et demi, voilà. C'est un rendez-vous qui est incontournable chez les Yankees. Généralement, à une époque, ça se passait carrément au sein du club. Ça a évolué maintenant vers les différents partenaires. Il y a quelques années, c'était au Delirium. Ouais. Cette année, c'est un nouveau concept, j'ai envie de dire, qui a été mis en place, puisque ça va se passer, c'est Holly's Dinner.
Tommy's Dinner.
C'est ça, ouais. Je me mélange toujours avec les deux. voilà, partenaire historique du club. Donc, le concept cette année, c'est de venir manger.
C'est ça.
Et après, il y a la possibilité de rester jusqu'à la fin du match.
Oui.
Voilà, pour continuer la soirée, pour passer une soirée un peu style à l'américaine. En tout cas, dans le concept qui a été présenté, c'est de passer une soirée à l'américaine.
Une soirée à l'américaine, oui, en plus en profitant de tout ce que peut offrir le Tommy's au niveau... offrir. Ça sera toujours client pour les desserts et ce genre de choses. Mais voilà, c'est de passer une soirée en essayant de démocratiser un petit peu plus le sport en France. C'est un événement qui est quand même ouvert à tous. Après, il faut quand même... en général, pas travailler le lendemain matin si on veut voir le match jusqu'au bout, parce que ça finit à 5h du matin.
Oui. Donc, ça pique.
Voilà.
Faut être motivé. Même quand on est étudiant, le lendemain, quand on se lève.
C'est ça. Donc, c'est un programme, c'est tout un programme. C'est pour s'inscrire, pour voir. Il y a une page d'inscription, dis-moi si je me trompe, non ?
Oui, pour participer à la soirée, il suffit de réserver. Après, sur place, l'heure d'arrivée, elle est libre. Il y a un menu spécial Super Bowl, mais sinon, c'est un Tommy's un peu comme d'habitude. Il y a la restauration qui est là jusqu'à l'heure habituelle.
Oui, je crois que c'est 23h à peu près.
Oui, ça finit 23h, 23h30 à peu près, ouais. Et après ça, il y a toujours moyen d'avoir des boissons ou des petits encas à grignoter, des trucs comme ça.
Jusqu'à
5h du mat.
En espérant que ça s'arrête bien à 5h du mat, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une prolongation qui s'éternise.
C'est ça.
Et peut-être du coup, tu voulais parler du match, Cédric ?
Oui, on a encore un petit peu de temps.
Oui.
Match avec des équipes un peu historiques du Super Bowl, puisqu'on va voir les Eagles contre...
Kansas City.
Ouais. Kansas City qui est ces derniers temps régulier quand même du Super Bowl.
Ouais.
Qu'on a gagné un il y a 2 ans de mémoire.
C'est ça.
Alors cette année, j'ai moins regardé la saison. Je sais pas pourquoi. Peut-être que moins d'envie. Peut-être aussi moins de. Je crois qu'il y avait peut-être moins d'enjeux en tout cas. Qu'il y avait moins de. L'année d'avant, il y avait le débat de Brady, est-ce qu'il reste pas. Je pense que ça mettait quelque chose aussi, ça motivait à regarder les matchs. Et c'est vrai que moi, cette année, il y a eu un petit désintéressement, j'ai suivi vraiment les phases finales. Quoi. Je pense que sur le papier, on peut avoir une très belle finale. Voilà. Mon favori, ça va être Kansas, parce que vu leur quarterback, je trouve qu'ils méritent quand même d'avoir des titres. C'est un peu le renouveau, je trouve, chez les quarterbacks.
Même du côté de Philadelphie, leur quarterback est jeune aussi, et ça fait un petit peu la passerelle avec Tom Brady qui s'en va, le plus vieux part à la retraite, et les jeunes prennent la relève pour les prochains Super Bowl, ou du moins celui-ci déjà, c'est une bonne chose.
Oui, parce que cette année, c'est normalement officiel, hein. Bon, l'année dernière c'était officiel aussi, hein. Mais Tom Brady prend enfin sa retraite.
Oui.
Bon, jusqu'à cet été.
Jusqu'à son retour.
Ouais, non, mais...
On n'est pas à l'abri d'une rechute.
Bon, je pense que là, cette fois-ci, ça va être sûrement définitif. Je pense que derrière, il y a eu un
45
peu...
45 ans quand même.
Ouais, ça... et puis bon, au niveau des mains, c'est plus tout à fait ça non plus.
Il a eu quelques moments
un petit peu voilà, ouais, c'est
difficile.
Et les blessures commencent aussi à venir régulièrement. Il est temps aussi de passer, je pense, à autre chose. Je pense qu'il retrouvera sûrement une place dans un club, dans le management, tous les trucs comme ça. Je ne me soucie pas trop pour lui.
Possiblement, oui.
Par contre, oui, voilà, c'est plutôt son parcours qui restera quand même atypique. Deux clubs voilà, avec qui il est capable de remporter le Super Bowl. Ouais. Il a explosé tous les records. Donc, ouais, c'est enfin une page qui va se tourner. C'est justement, je trouve ça bien qu'il y ait une équipe, voilà, deux quarterbacks jeunes qui soient en finale. Et du coup, vos pronostics par rapport à ça, par rapport à ce match-là?
Rapidement. Moi, ça sera, je pense, Kansas City.
Les Chiefs.
Ouais, c'est ça.
Elisa?
Pareil.
Les Chiefs. Très bien, donc ce Super Bowl qui aura lieu donc dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, jusqu'à 5h du matin, entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles et de Philadelphie.
Gratuitement sur la chaîne l'équipe 21.
Effectivement.
Et sinon, pour ceux qui payent, bah, c'est Bing.
Voilà. Merci à tous d'être nous avoir écoutés déjà, chers auditeurs, et puis merci à nos invités, Pierre et Elisa, d'avoir été avec nous pour parler des Yankees d'Angers, parler de football américain, de flag et de cheerleading. J'ai envie de dire, vous revenez quand vous voulez. Les Yankees sont des grands habitués de l'émission. Mmh. Donc voilà, vous pourrez revenir quand vous voulez.
Merci.
On va se quitter du coup avec le générique. Et puis la semaine prochaine, on ne sera pas là.
Parce qu'il faut se reposer après un Super Bowl.
Exactement. Donc voilà, 14 février, on a peut-être d'autres choses à faire. Et puis se retrouvera
une coupe d'Europe.
Oui, exactement. Ça dépend. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc voilà, on vous laisse avec la suite des programmes. Et nous, on se dit au mardi 21 février.
Il va falloir...